fonctionne. Bonjour à tous. Bienvenue aux Utopiales. On va parler d'un sujet très réjouissant pour l'heure. La mort est-elle une limite à repousser? Donc avec moi, j'ai Jean-Philippe Depote, Jeanne Debat et Fabien Wellmann. Et on va essayer de discuter sur cette chose qui est une finalité en soi, qui est peut-être la dernière frontière, puisqu'il faut, coller avec le thème général, que l'homme peut connaître, puisque après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc
on va en parler pendant une heure de ce qu'on ne sait pas.
On va parler du néon. Mais c'est un sujet quand même qui est très intéressant, puisque il y a quand même beaucoup de progrès scientifiques. On est dans une société où on essaye justement de repousser la mort par le traitement de certaines maladies, par l'élévation de la moyenne d'âge de la population, qui fait qu'on meurt de plus en plus vieux. On est capable de vivre plusieurs vies dans une même vie. Et du point de vue de la science-fiction, ça, et de la littérature, il est intéressant aussi de savoir comment les auteurs peuvent appréhender la mort comme, pas figure, mais comme cadre de leur roman ou comme outil de leur roman pour réfléchir sur des sujets beaucoup plus vastes. Je ne sais pas, quelqu'un a des idées? Je ne sais pas, tu as l'air choqué, interloqué. Je pense par exemple dans ton roman La vieille anglaise et le continent, tu as quand même tout un jeu, une introduction où ton héroïne se retrouve confrontée à l'idée de mourir et accepte en quelque sorte de participer à cette expérience.
Oui, alors dans La vieille anglaise et le continent, c'est une vieille dame qui accepte d'être proche, donc que son esprit soit transféré dans le corps d'un cachalot. C'est un monde où finalement les gens en fin de vie, normalement, transfèrent leur esprit dans des clones d'eux-mêmes plus jeunes. Alors, dans mon histoire, ça ne fonctionne pas super bien. Ces clones finissent toujours par dégénérer et fondamentalement les gens qui font ce choix-là se retrouvent dans une fausse jeunesse qui tourne assez vite vers Alzheimer. Sauf que la vieille anglaise, dans l'expérience qu'elle va subir, n'est pas dans ce truc-là, ça va fonctionner avec le cachalot. Mais mon propos, c'est pas tellement la mort que la vieillesse en fait. Dans La vieille anglaise et le continent, et c'est ça qu'elle repousse. Parce que la mort, elle l'attend, mon héroïne.
Oui, oui.
C'est une délivrance. Et elle n'accepte qu'un sursis pour un dernier combat, en fait. Voilà. Personnellement, j'ai pas de soucis avec la mort. Je suis réveillée et complètement. J'ai renoncé à l'idée de me battre contre elle. C'est la vieillesse qui m'angoisse, en fait. La perdition des facultés intellectuelles.
D'accord.
Ça me terrorise.
Alors, je préfère dire tout de suite que ça me terrifie. Non, mais c'est pas ça, mais j'admire qu'on puisse le dire de cette manière-là, et j'espère arriver à cette sagesse proverbiale qui caractérise les auteurs de science-fiction, une certaine réputation. Mais je reconnais que autant dans tout ce que j'écris, entre autres avec Gwen de Bonneval, qui est ici présent pour Les Derniers Jours d'un Immortel, un excellent album pour pas très cher chez Futuropolis, on peut parler de la mort et essayer de se faire un peu d'argent avant. On a voulu parler de l'immortalité, et effectivement, donc c'est bien un sujet qui nous tenait à cœur à l'un et à l'autre. Et autant, j'allais dire, le livre est relativement optimiste, en fin de compte, je crois, autant c'est pour moi presque une méthode couée de le terminer sur une note optimiste, parce que si je dois m'écouter réellement quand même, je suis d'accord parfaitement avec ce que Jeanne a dit en termes théoriques, mais dans les faits, ça me maintient éveillé un certain nombre de nuits par an, si ce n'est pas un certain nombre d'heures par nuit. Me dire quand même, oui, mais enfin, est-ce que vraiment ça s'arrêterait vraiment, quoi, merde. Et peut-être que le propre d'un auteur, c'est justement de parler de ce qui l'angoisse, ou en tout cas de ce qui lui occupe l'esprit. Très souvent, dans mon cas, c'est présent dans tout ce que j'écris. Il y a toujours au moins une référence à la mort, ou ma phrase préférée quand même depuis une série qui s'appelle Samedi et Dimanche, qui était « On va tous mourir », qui est dit par un personnage en général complètement paniqué, et qui est venu d'une anecdote réel, un camionneur que j'avais vu une fois à Paris dans un énorme camion. Il était complètement ivre et il déboulait comme ça dans les rues. Et à un moment donné, il s'arrête à un feu rouge, il baisse sa fenêtre et il gueule à tout le monde « On va tous crever !» Je me suis dit, ce qui est fou, c'est qu'il a raison, quoi. C'est que ce mec ivre dans son camion, il dit un truc super vrai. Et ça m'a pourri les quelques années qui ont suivi. Voilà une...
Les camionneurs sont pas sympas.
Ben, ils le sont, mais ils sont très lucides, en tout cas. Et ivres, dans le cas présent. Mais...
Jean-Philippe, du coup, je pense à ça, puisqu'on dit qu'on va tous crever et tout. Dans ton roman...
Le dernier en date.
J'espère que tu vas pas mourir du SEGA, ça serait dommage. Mais... tu arrives quand même à imaginer une certaine cosmologie d'après la mort ou de passage après la mort.
Oui, en fait, donc moi j'ai choisi de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, en fait, puisque le roman, donc les démons de Paris, chez De Noël,
pas cher,
pas assez. Et donc c'est plutôt un livre, alors bon, c'est un divertissement, mais enfin le fond de l'affaire c'est plus la religion que la mort. Et mon point de départ c'était que le boulot des religions, la fonction, le fonds de commerce des religions dans le monde, c'est en fait il est double, enfin il a toujours été double. C'est d'un côté expliquer le monde, expliquer ce que les gens ne comprennent pas, et donc la mort en particulier qui est un grand sujet des religions. Et à côté de ça, un autre sujet qui a priori n'a rien à voir, une autre fonction de la religion, qui est de donner des règles de vie aux gens, et la morale, des règles de vie en société, et même des règles de vie avec soi-même. Et voilà, j'ai toujours été d'accord avec la deuxième fonction et pas avec la première. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de créer un héros, un personnage principal, qui a une semaine de devenir prêtre, Joseph, et qui a le pouvoir de dialoguer avec les morts. Et en fait, lui, il va faire justement le cheminement d'un pôle de la religion à l'autre, étant sur le point de devenir prêtre. Il voit en fait les choses de façon très étriquée, et avec donc par le petit bout de la lorgnette, et il croit que sa mission, justement, comme il peut parler aux morts, c'est d'essayer de gratter un peu pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, et de, dans la tradition des religieux scientifiques comme le moine Mendel et ses petits pois génétiques, il essaie de comprendre la cosmologie des enfers, de la mort, et donc il imagine un système où les enfers et le paradis tournent autour de la vie comme des planètes autour du soleil, et qu'il y a une physique derrière qui fait les lois de Kepler de la mort, et grâce à des abacs et des tableaux qu'il fait, il veut calculer à quel moment quel enfer passe au niveau de la Terre, quoi. Et d'ailleurs le roman se passe au moment où le Tartare passe sur Paris. Et partant de là, donc il va se retrouver embarqué dans plein d'histoires, qui fait qu'à la fin, sans trop spoiler, il va quand même finir par comprendre que la religion, c'est pas ça, et qu'en fait, en croisant les problèmes des gens qu'il va croiser à travers ses aventures, il va finir par comprendre que c'est plutôt le deuxième pôle qui est le boulot de base de la religion. Et il va comprendre que son rôle de... puisqu'il parle aux morts, puisque c'est son pouvoir, c'est plutôt d'accompagner et d'aider les défunts dans leur premier pas dans la mort. À côté de ça, donc, c'est quand même plutôt... vu que pendant tout le bouquin, la moitié du bouquin se passe de l'autre côté, se passe dans le Tartare et dans le Paris des morts, je me suis amusé, c'est le côté petit bout de la lorgnette, à prendre... comme hypothèse que tout ça est vrai, tout ça existe bien, que les gens, les âmes se baladent bien du côté des morts, et j'essaie de creuser à chaque fois pour me demander bon, mais concrètement comment ça peut se passer, comment ça peut marcher, comment quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, avoir oublié tous ces problèmes, toutes ces questions, tous ces rapports avec les autres du moment où il est mort, forcément il garde des problèmes psychologiques, il reste jaloux, il peut rester méchant, c'est pas parce qu'il est mort que brutalement il doit devenir sympathique, et voilà, et donc je m'amuse à creuser tous ces trucs là et donc une vision qui est pas du tout par rapport à la façon dont on a commencé la discussion, ne correspond pas du tout à la façon dont moi je vois les choses, c'est un divertissement, quoi.
Oui, mais tu sais, pour moi, comme à la base le Dieu n'existe pas, pas, il n'y a rien après.
C'est la conférence suivante. Hein.
Pardon. Tu ne peux pas l'envisager comme ça, effectivement. Je suis dans l'avant, forcément.
Bah, disons que c'est un cas d'école. Disons qu'à la limite, moi, j'ai essayé de mettre mes croyances au placard en écrivant ce livre-là. Et voilà, je prends une hypothèse de départ. Ça se passe comme ça. C'est réel. Le paradis existe. Les enfers existent. Bon, mais voilà. Comment ça se passe vraiment quand on y est, quoi, à quoi ça ressemble, hein,
cette question de l'après, justement, elle est assez importante, et en termes narratifs et en termes humains. Parce que justement, elle décale la question de est-ce qu'on peut vivre avec un coup près qui est de dire ça s'arrête réellement, il y a un néant. Ou est-ce que ça se prolonge? Et à la limite, là, on peut renouveler plein de questionnements qui sont ceux de la vie de tous les jours, genre de quoi demain sera fait, finalement, que ce soit dans ton roman ou dans la vision catholique classique. Si on se dit, bon, bah, plus tard, il y aura quelque chose, il sera temps de faire avec, ce sera peut-être trop tard ou quoi, mais on attend ce moment-là. Maintenant, si on est résolument athée ou qu'on pense que ça va arriver de manière un peu plus brutale et un peu plus abrupte, bah, c'est effectivement, là, on se retrouve avec cette peur d'une espèce de mur. Et c'est là que la question de repousser ces limites-là, scientifiquement parlant, ou avec cette notion très post-humaine qui est en train d'apparaître actuellement, d'une immortalité peut-être pas si éloignée que ça de nos capacités techniques, commence à réellement apparaître. Et on voit que cette notion post-humaine d'immortalité, elle est venue remplacer petit à petit un autre type de mythologie qui était celui de l'après-mort. Maintenant, c'est l'avant-mort, effectivement. Et est-ce qu'on peut faire durer ça assez longtemps? L'impression que ça me donne aussi, peut-être un point commun dans ce qu'on écrit, c'est que on émet quand même un peu un doute par rapport à cet avant-mort, que ça se passe si bien que ça, même si toi c'est l'au-delà, mais qui reprolonge des problèmes qui existaient avant. Ce que tu décris sur une sorte d'Alzheimer, de dégénérescence, ça donne pas super envie de vivre longtemps non plus. Avec Gwen, on a essayé de développer aussi cette idée que l'immortalité finit par peser à un moment donné aux personnages qui finissent par accepter une forme de mort, simplement ils choisissent le moment. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'à la fois ça correspond à quelque chose auquel je crois beaucoup, à savoir que effectivement, il y a quand même bien un sens à cette fin, à cette finitude qui permet de donner du sens à ce qu'il y a avant, et qu'à la fois, ça correspond aussi au fait que je ne sais pas si je serais capable d'imaginer réellement une immortalité de fait. Je ne sais pas si je suis équipé mentalement pour imaginer une immortalité qui se passerait bien, alors que si ça se trouve, peut-être qu'elle se passerait bien, mais actuellement, dans ce que j'écris, je dis non, il faut accepter la mort, peut-être aussi parce que je suis juste incapable d'imaginer autre chose. C'est peut-être une impuissance, quoi. Non, pas de politique, c'est très gênant. Non, oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est assez juste. Pas que c'est sale, hein, mais je veux dire.
Mais d'un point de vue beaucoup plus moral et éthique, la mort n'était pas devenue plus tabou qu'elle n'a été à une certaine époque. Je pense par exemple à tout ce qui était livres de mort, les morts qu'on affichait justement dans les photos des morts qu'on affichait parfois dans des dans des cadres, au-dessus de la cheminée, et n'arrive-t-on pas plutôt à une société qui a tellement peur de la mort, qui veut absolument la repousser dans ses limites, et c'est pour ça qu'on flippe et qu'on veut absolument... Sans problème, mais c'était sur des espaces beaucoup plus courts et beaucoup plus... On avait le temps de vivre une vie et pas plusieurs. D'où le mythe du prince charmant, par exemple, qui
on n'avait pas le temps.
On n'avait pas le temps.
C'était la pneumonie charmante à l'époque. J'espère que le typhus va m'atteindre avant mes 13 ans. Hourra.
Mais c'est ça, à l'époque, les gens... Dans le passé, les gens mouraient beaucoup plus que maintenant, beaucoup plus jeunes. Non, mais tout le monde connaissait dès très jeune. Il y avait plein de morts autour de soi. Et donc, c'était quelque chose forcément qui était moins tabou et beaucoup plus accepté. Et moi, justement, ce qui m'a intéressé dans le fait de mettre mon histoire au début du XXe siècle, 1910 par là, c'est que justement, c'est une époque où, en particulier, le contact avec les morts, les médiums, étaient très, très populaires. Et puis, comme on était aussi une période juste après l'exposition universelle où il y avait un grand espoir dans la science, il y avait plein d'expériences publiques d'électricité statique entre les grosses boules de cuivre, des choses comme ça. Et avec le même public, cinq minutes après, c'était un médium qui allait discuter avec un ancêtre disparu. Et tout ça se mélangeait dans la tête des gens. Et justement, il n'y avait pas les frontières qu'il y a aujourd'hui entre ce qui est scientifique et ce qui est... métaphysique ou et du coup pour une histoire qui mélange les deux, c'était vraiment une belle époque pour justement où c'est pas tabou, l'époque des Memento Mori, c'est un peu avant, je crois, c'est vraiment le tout début de la photo où, donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait la chose amusante, magique, qui était que sur les photos où la famille posait autour du mort, qu'on forcément on habillait comme s'il était encore vivant, parce qu'en général les gens, comme la photo coûtait très cher, ils n'avaient pas eu l'occasion de prendre des photos de son vivant, donc c'était vraiment le dernier moment de le prendre en photo avant de l'enterrer. Et ce qui fait rêver, c'est que comme les temps de pause étaient très longs, tout le monde était flou sauf le mort, et que sur ces photos là on repère d'un coup d'œil celui qui est mort au milieu. Pourtant ils l'ont déguisé, ils l'ont assis, il est comme endormi, mais on le repère tout de suite parce qu'il est net et les autres sont flous. C'est ça, ouais. c'est un peu magique.
Je suis assez d'accord avec cette idée de cloisonnement de plus en plus fort de la notion de mort qui maintenant, je veux dire, est confiée à des professionnels, déjà l'hôpital qui est un petit peu quand même le sas, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il nous terrifie de plus en plus, c'est-à-dire qu'on sait aussi plus ou moins consciemment que c'est par là qu'on passera et peut-être que c'est là qu'on finira nos jours.
Il n'y a rien de plus dangereux qu'à l'hôpital.
On est bien d'accord. Statistiquement, il s'y passe un certain nombre de choses quand même. Il faudrait que je parle de ma coloscopie un jour. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher. Toujours, je sais pas pourquoi, c'est pour dédramatiser. Et après ça, on confie ça à des gens qui vont s'occuper de la mort parce que ce sont des professionnels de ça. Et entre autres, une des choses qu'on voit apparaître de plus en plus souvent, par exemple en France, alors que c'était pas du tout une coutume avant, c'était le fait d'incinérer les morts, qui pour moi à la fois, effectivement, peut être une belle façon de faire disparaître un défunt, mais je veux dire, on décorporise, on désubstantialise ce qu'est un cadavre. Il disparaît d'autant plus vite. Et la question se pose, par exemple, maintenant, plus fréquemment, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces cendres. Est-ce qu'on les disperse, mais il semblerait que psychologiquement, ce soit plus compliqué qu'il y paraît. Ou est-ce qu'on le met quelque part pour qu'il y ait un lieu de mémoire. Mais dans tous les cas, ça reste quelque chose, effectivement, qu'on rejette. En fait, ça devient du refoulé, au sens vraiment psychanalytique du terme. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là. Si on nous dit, oui, vous êtes conscient que vous allez mourir, on dit, oui, bien sûr, c'est clair, on en parle tout le temps dans tous les films, etc. Mais fondamentalement, je m'inclus là-dedans, je crois, parce que je crois que je fais partie de ce processus de société. On l'accepte en fait de moins en moins. Et je crois que c'est pour ça que moi, c'est comme une gymnastique mentale, un peu morbide, je reconnais, mais d'en parler dans la plupart de mes bouquins, c'est de me dire, en fait, c'est là, et je crois qu'il vaut mieux, c'est pas s'amuser de manière malsaine avec l'idée, mais être conscient que c'est là, accepter que c'est là, et qu'effectivement, c'est... je sais plus qui a dit ça, qu'en fait, la mort, on compare la mort au soleil, en disant, c'est dans les deux cas, on ne peut pas la regarder en face. Ça reste d'autant plus vrai maintenant qu'on ne veut plus la penser, parce que justement on se dit non, puisqu'on a maintenant la technologie pour repousser, pour aller plus loin, donc pourquoi pas être dans le tout positif. Or, je ne crois pas que ça puisse fonctionner du tout. On est obligé, c'est très yin-yang, mais on est obligé d'avoir ces deux notions pour que ça marche, pour que ça tienne debout, quoi. On est bien d'accord.
C'est sûr.
Pourquoi est-ce que je pense à Woody Allen, là?
Ah oui,
il y a une vague de Woody Allen qui me fait rêver depuis
Qu'est-ce que tu dis par rapport à la mort et l'immortalité? C'est l'immortalité, c'est bien au début, mais c'est long sur la fin. C'est très très long sur la fin.
Bon, bah, allons tous mourir, les amis.
Oui, non. Mais il y avait surtout quelque chose en science-fiction pure et dure qui me fait beaucoup penser à l'histoire de mort, c'est l'arrivée de plus en plus, enfin, d'une idée qui est novatrice, mais qui était novatrice dans la science-fiction, c'est tout ce qui était intelligence artificielle et traces qu'on peut laisser sur tous ces réseaux qui font qu'on peut mourir consciemment, mais qu'il reste toujours des traces de nous malgré notre mort. Je pense par exemple à un texte de Silverberg qui parlait d'une société où tout le monde arrive à un degré, non pas d'immortalité, mais de vieillesse qui dure sur plusieurs siècles. Et chacun décidait de mourir, consciemment ou non, mais rester dans la société via des cubes qui enregistraient, comme dans ton roman, une certaine plasticité du cerveau, certains souvenirs qui leur permettaient d'anticiper. Est-ce qu'il n'y a pas un certain décalage du point de vue littéraire, un rattachement de justement l'intelligence artificielle comme un palliatif à la mort ou à une source de savoir qui n'est pas forcément un autre dieu, par exemple? Vas-y.
Pour rebondir, mais ça va être compliqué, sur ce que tu dis sur l'intelligence artificielle, un des thèmes communs que j'y vois, c'est qu'est-ce qui reste d'un individu quand on le transforme progressivement. Enfin, c'est parce qu'à une époque où je m'intéressais beaucoup à cette question de l'intelligence artificielle pour une série, j'avais découvert qu'une des théories qui avait été étudiée technologiquement, c'était qu'on remplace le cerveau, mais très progressivement, par du silicium. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de dire bon bah quelqu'un meurt et puis finalement il a été numérisé ou il a été enregistré, c'est au fur et à mesure de sa vie, on finit par minéraliser son cerveau et il devient un ordinateur. Et comme ça se fait progressivement, bah, il continue à vivre. Donc, et à terme, il pourrait devenir immortel parce que fait d'un matériau un peu plus solide. Mais la question que ça pose, c'est finalement qu'est-ce qui reste de l'individu quand on le remplace de manière progressive. Quand on parle de la mort, c'est très clair. C'est, on arrête et puis est-ce qu'il y a quelque chose derrière? On ne sait pas. Quand c'est progressif, c'est beaucoup plus ambigu. Et c'est aussi une question qui revient un peu dans ce qu'on dit avec cette question de la mémoire, par exemple, ou de revenir en arrière pour vivre des souvenirs du passé, mais qu'est-ce qu'il en reste réellement dans les derniers jours d'un immortel? C'est une des vraies questions qu'on s'est posée avec Gwen, c'est qu'est-ce qui reste de la mémoire si on vit éternellement, ou des centaines d'années, et qu'on oublie ce qu'on a vécu 300 ans plus tôt, puis 200 ans plus tôt, et qu'on devient un autre individu, en fin de compte? Alors, quelle différence entre ça et une espèce de métempsychose, c'est-à-dire de renaissance dans un autre corps? Est-ce que c'est toujours le même individu? Cette question, elle se pose dans nos vies. Est-ce qu'on est la même personne que quand on était enfant, puisque toutes nos cellules se sont plus ou moins renouvelées, qu'on n'est plus du tout la même personnalité? Or, grosso modo, on a tendance à dire qu'il y a une continuité, parce que c'est plus pratique de dire quand j'étais moi, à 13 ans, c'était moi, plutôt que de dire c'était un truc qui avait 13 ans, qui ressemblait à peu près à ça, et je suis ou quelque chose est devenu autre chose. Est-ce que c'est encore je, en fait? Cette question de l'immortalité pose ça. Et la question de l'intelligence artificielle, pour moi aussi, c'est est-ce que c'est encore la même personne? Est-ce que c'est encore la même personnalité? Et du coup, si ça se renouvelle constamment, quelle différence entre ça et la mort? on arrête et puis quelque chose continue. Les enfants, ce qu'on a laissé sur Internet, Internet, la mémoire, etc. Sauf que ça nous terrifie. L'idée de débrancher l'ordi et de le rebrancher nous terrifie, alors que l'idée qu'il y ait une sorte de continuité, même un peu molle, ça a l'air de mieux correspondre à notre état d'esprit.
Mais, oui, parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même quand les gens sont en vie, entre la personne qu'ils sont quand ils sont enfants et la personne qu'ils sont quand ils ont 60 ans, déjà, ils ne sont plus le même. Et moi, c'est un des sujets que j'ai essayé de... aussi de creuser un peu, parce que en fait, quand on se place, il y a un des cas que rencontre Saint-Joseph, là, qui parle aux morts, le Saint-Joseph des morts, du bouquin, c'est le cas de deux jumeaux, dont un meurt à 10 ans, quoi. Et du coup, il retrouve au paradis son frère jumeau, qui lui a vécu jusqu'à 60 ans. Et donc ça pose un double problème, c'est que primo, celui qui est mort enfant, il reconnaît pas son jumeau quand il le retrouve au paradis, parce que lui, son moi, il a 70 ans, quoi, 60 ans. Et puis l'autre, il le retrouve comme étant une partie de lui-même qu'il avait oublié, quoi. Et il le retrouve au paradis, et quelque part, c'est une espèce de reproche de tout ce qu'il a perdu pendant sa vie, quoi. Et en fait, voilà, c'était un peu le point de vue sur duquel je me plaçais dans mon monde des morts. C'est que, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire en écoutant les discours de la religion et de la description quelquefois un peu simple du paradis, ça résout rien, quoi. Et que si on suppose effectivement qu'il y a une vie après la mort et que les gens se retrouvent tous ensemble derrière, il y a encore plein de problèmes qui vont rester, des problèmes psychologiques, des problèmes de... Et que même s'il y a une éternité derrière, il y a largement assez de problèmes pour la combler, de plein de conflits, de jalousies,
pour s'occuper.
Comme ça, pour s'occuper, exactement. Oui, oui, oui.
Oui, c'est vrai que la survie de l'esprit, du pur esprit, j'allais dire, c'est très occidental, c'est très imprégné du catholicisme, à savoir qu'on puisse distinguer un corps, qu'on le veuille ou non, qu'on voit un peu comme un navire quand même, comme je crois Descartes en avait parlé, et puis l'esprit qui finalement pilote ça, mais peut se passer du navire et puis peut mener sa vie, quoi. Or, on voit bien que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'effectivement le corps et l'esprit sont beaucoup plus chevillés, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu les boules de perdre une partie, et qu'éventuellement on perd de l'autre en même temps. Qui seront plus éthérés. mais d'ailleurs, cette ambiguïté, je crois que même dans le catholicisme, elle était perceptible sans être trop abordée avec cette question de la résurrection, où il parle d'une résurrection des corps. On a tendance à oublier que souvent on dit c'est une résurrection dans un paradis très spirituel, mais en fait, dans la plupart des textes, il est question d'un moment où il y aurait une résurrection des corps, c'est-à-dire que les morts se relèvent et se rejoignent. Et à la fois, nous, ça nous choque un peu maintenant en disant mais qu'est-ce qui se relève au juste si c'est le truc tout pourri qu'on a enterré? Où est-ce que ça va aller mieux? Mais alors du coup, à quel âge ils sont censés se redresser? Est-ce que c'est un âge sympa? Ou est-ce que c'est juste au moment d'Alzheimer? Auquel cas, ça va être super. Et en même temps, on sentait que c'était peut-être enfermant, ou plus ou moins dit, cette ambiguïté de fond, à savoir, mais oui, mais est-ce qu'on peut réellement distinguer les deux? Et est-ce que pour une plénitude humaine, on n'est pas obligé de parler du corps quand même?
Ça me fait penser à un roman dont j'ai lu le titre.
La Bible?
Mais je veux bien, c'est moi les titres. La résurrection. Et en fait, c'est juste l'enfer pour Lazare, parce que Jésus a ressuscité son esprit, mais le corps ne suit pas, et il tue la mort. Et un enfer avec les autres qui sont malheureux. C'est un roman de fantastique, mais je ne me rappelle plus de votre roman. C'est un grand truc, ça.
Mais justement, maintenant. enfin, par rapport à ce problème-là, c'est pour ça que j'ai choisi de traiter le problème vraiment par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire de prendre, de ne pas me poser des questions de croyances, et pas du tout, mais croyances personnelles, mais justement de me dire, voilà, je mets tout au placard et je prends justement une vision un peu simpliste des choses, qui est la vision qu'a le héros Joseph au début, puisqu'il il est tout jeune, il a à peine 20 ans. Et,
c'est un hasard s'il s'appelle Joseph ou tu l'as fait exprès ? C'est le grand coup d'un mec, mais bon,
oui. Il y a une Marie aussi dans le roman. Hein. Et en fait, justement, les enfers et le paradis fonctionnent comme ça. Et au fur et à mesure que le roman évolue et que le personnage évolue, justement, les relations entre les personnages deviennent un peu plus éthérées du côté des morts. Et ça finit, voilà. Ça finit au purgatoire, je ne veux pas raconter la fin, où justement plus rien n'est matériel. Quoi.
Tu m'as un passage de bon présage de Maïmé, où en gros le démon menace l'ange de la chose suivante. Si les tiens gagnent, tu vas passer l'éternité à écouter la mélodie.
D'ailleurs, ça cause beaucoup de soucis éthiques après de savoir si on continue ce grand jeu de s'affronter et de mettre un fin, justement, une fin à l'humanité, une fin totale à l'humanité ou non.
Surtout que l'ange, à dire à Raphaël, lui, il adore Schumann, de Mozart.
De Mozart, et ça, c'est cool.
Ça, c'est vachement cool.
Si dans le public, il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est le moment. Oui. Soyez pas timide, hein. Vous n'allez pas mourir tout de suite.
Je savais que c'était un sujet
complet.
Oui, c'est notre intervention. Je sais pas
si c'est... Voilà, on a une deux. Voilà.
Oui, c'est.
Bonjour, merci déjà pour cette conférence. Je suis assez surpris en fait de. Voilà, on travaille sur Ubique en ce moment avec des amis et je m'attendais à ce qu'on en entende parler par rapport à cette conférence sur la mort et la science-fiction. Même si c'est un ouvrage qui est extrêmement complexe, qui relève d'une cosmogonie. Complètement fantastique, et c'est complètement autre chose, c'est en dehors de la religion, j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à cet univers-là, si vous avez des choses à développer, ou voilà.
Ça tombe bien, parce que j'ai pas lu Ubique.
En fait, parler de Kadic dans une conférence, c'est tabou, parce qu'on a tous l'air con à côté, donc on évite à fond de parler de lui. On parle d'autres petits auteurs, Neil Gaiman, par exemple. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis pas un grand connaisseur de Kadic, mais je suis très admiratif de son boulot. C'est vrai que Ubique m'a passablement marqué, et dans certains de mes bouquins, on pourrait même dire que je le pompe éhontément, donc c'est pour ça que j'évite de trop en parler. Merci d'appuyer là où ça fait mal.
Même chose.
Ouais, voilà. Voilà. Bon, en même temps, ce qui me rassure, c'est de voir que ça a été multi-pompé partout, c'est-à-dire que tout le monde a pompé Kadic à un moment ou à un autre, tellement il a été précurseur de plein de choses, sans doute parce qu'il était un peu... Non, Gwen, pas dans ce sens-là. Sans doute parce qu'il a été précurseur, parce qu'il était un peu fou, quoi. Donc il avait une espèce d'avance, j'allais dire presque malgré lui, enfin, qui lui a pas apporté que chance dans sa vie de tous les jours. Mais c'est vrai que sa façon de voir les choses a été une espèce de choc, parce que c'était d'un seul coup... Alors, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas envie non plus de spoiler, pour ceux qui n'auraient pas lu Ubi, qui est quand même vraiment un chef-d'œuvre. Mais il a une espèce d'inversion des préceptes de départ qui est assez sensationnel. Alors effectivement, mais ça serait presque une conférence à part. Tellement c'est riche, comme tu le disais, si vous bossez dessus tout le temps, vous devez réaliser qu'en une heure, on ne va pas trop en faire le tour, quoi. Mais bien entendu que ça fait partie des gens qui ont apporté une pierre très importante à cet édifice, qui est les conférences sur la mort.
Oui.
Mais là, dans les romans de Kadic, moi je pense à Substance Mort que j'ai dévoré. Ubique, j'ai pas pu, je suis vraiment désolée, c'est pas ma problématique du tout. En revanche, Substance Mort, oui, puisqu'on est effectivement dans ce glissement de l'esprit, etc. Mais j'en aurais pas eu envie de discuter de ça, à propos de la mort, parce que c'est pas mon chemin. Il n'est pas du tout dans la résignation, en fait, Kadic.
Oui, non. C'est... Il est même, d'une certaine façon, dans un certain onirisme. C'est même plus une réalité, c'est un certain onirisme. Surtout quand on pense à Ubik qui alterne les réalités, qui est une imbrication de réalité dans une réalité, et dont une citation est quand même emblématique, c'est « Je suis vivant et vous êtes mort ».
Voilà.
Qui poursuit, qui est quand même une pierre fondatrice en une seule phrase de tout un pan du roman.
Et il y a toutes ces questions justement de perception de l'éternité, de perception avec les drogues, en particulier même dans la vie de Kadic, tout ce qu'il a pu se manger pour le coup. On voit bien que cette problématique de comment l'esprit s'adapte à une certaine temporalité et peut se rencontrer l'éternité d'une certaine manière, mais dans ce qu'il peut avoir de positif comme dans ce qu'il peut avoir de négatif. Il s'est fait des très très mauvais tripes qui l'ont marqué à vie, réellement. C'est-à-dire qu'après, il n'avait qu'une frousse, c'était de se dire, si c'est un avant-goût de la mort, ce que j'ai vécu là, c'est horrible. Il voyait un visage menaçant dans le ciel.
Il voyait aussi la surimpression de Rome antique sur San Francisco, sur Los Angeles actuel ou San Francisco. Je ne sais plus.
Oui, mais ça, moi aussi, ça, je vois... Tu ne vois pas ça,
toi ? Non, non, non.
Je suis le seul ou quoi ?
Tu as des lunettes à réalité augmentée.
Mais j'ai oublié, vous êtes tous morts.
Ah ben c'est pour ça qu'il pose pas de questions. Tiens.
C'est ça. En fait, on est déjà tous morts et on s'en rend pas compte et on parle dans le vide. Quelle belle vision de l'après-mort.
C'est aussi une belle vision de la vie, à mon avis.
Oui, tu veux être en conférence éternelle sur la mort.
Eh ben oui.
Ça n'enthousiasme personne, et c'est...
Le côté vox clamatin deserto, tu sais.
Oh, attends, mais c'est pas de m'épater avec tes mots grecs.
Je suis la voix qui crie dans le désert.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, là-bas. Vous pouvez faire passer le micro.
Oui, donc lorsque j'entends parler d'immortalité ou de problèmes de mort, je ne peux pas m'empêcher de penser que pour les cellules, vouloir l'immortalité pour chaque cellule, ça conduit au cancer. Oui. Et ça nous fait terriblement réfléchir sur, comme disait Anne, sur le fait que... des fois, on ne veut pas lâcher les positions qu'on a. On ne veut rester là où on est. Ce à quoi on a réussi à accéder, on ne veut plus lâcher. Et ça finit par créer globalement une sclérose de la société. Donc, au-delà du passage vie-mort tel qu'on l'envisage, il y a toute la relation au lâcher-prise, à laisser les nouvelles générations, laisser les nouvelles idées, voire même se remettre en question soi-même. Et c'est ce qui est toujours très intéressant dans ce problème d'immortalité.
Dans le jeu du tarot, l'arcane, son nom, n'est pas celui qui représente la mort, et aussi celui qui représente le changement positif. Je dis ça, je dis rien, hein, mais moi je suis profondément rationnelle, et voilà.
De même qu'Ornain, la divinité de la destruction, c'est aussi le renouvellement derrière. D'ailleurs, quand Jeanne a employé le terme de stase en parlant de l'immortalité, c'est assez proche des métastases que vous évoquez avec le cancer. C'est quelque chose qui veut à tout prix rester, et qui empêche ce renouvellement. En fait, le vrai problème qui se pose à nous, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'à l'échelle générale et de la nature et du monde, on accepte assez bien, quand même, cette idée de renouvellement, du style « il faut laisser la place à autre chose qui réapparaît, ceci, cela ». C'est à titre individuel que ça nous fait un peu plus mal, en fait. C'est qu'on se dit « donc, à un moment donné, moi, je vais devoir laisser ma place comme une petite cellule ». Et là, on s'accroche parce qu'on a... Alors, je ne sais pas si on est les seuls, mais on fait partie des entités vivantes qui savent un peu ou qui croient savoir qu'elles sont conscientes de leur sort. Une cellule, j'espère pour elles, s'en rend pas forcément compte. Cela dit, visiblement, il y en a qui résistent hein, quand même. Mais à titre individuel, ça reste, et on reprend un terme religieux, ça reste un scandale. On n'arrive pas à entendre, à titre personnel, je l'entends pour tout le monde dans cette salle, sauf moi, en fait. Que vous mouriez un jour, je me dis, oui, bon, faudra bien s'y faire, les amis. Mais dès que moi, j'y pense réellement, enfin là, je pense à chacun individuellement, quand on l'envisage réellement, c'est un scandale moral. On se dit, non. Non, là, c'est impossible. D'ailleurs, moi, je pense que la dernière chose qui va me traverser l'esprit au moment de mourir, ça sera quoi ? Enfin, une espèce d'impossibilité. Du style, non, ça devait être forcément un peu après. Et même si je dis que je m'y prépare, je serai forcément je veux dire qu'il y a froid, quoi, si je peux me permettre l'expression.
Alors, je me demande si c'est quand même pas... Il y a quand même pas un truc typiquement mec dans ce que tu viens de dire, parce que... Pardon, hein, je vais pas faire du sexisme, mais quand on est femme et qu'on a accouché, qu'on a mis un mort au monde, en fait... Je n'ai pas dit que j'avais fait une fausse couche, hein, attention. J'ai dit que j'avais mis au monde un être vivant qui était appelé à mourir. On l'apprend, là, dans sa chair, qu'on va mourir. Surtout qu'on risque de mourir à ce moment-là. Je pense que c'est une des grandes différences psychophilosophiques des femmes par rapport aux hommes. C'est la conscience de la mort, il y a un moment où on va la voir et puis on va la prendre en plein dans la gueule. Ça y est, j'ai encore plombé l'ambiance.
Oui, je sais plus quoi dire.
Oui, je me demandais si la mort était un programme biologique, une erreur, et qu'en fait, on n'a pas encore découvert le moyen de faire autrement et d'arrêter de mourir, de décider d'arrêter de mourir.
Comme un truc à améliorer, en fin de compte.
Bah, ouais. C'est pas le fond de la Bible, parce que normalement, on n'aurait pas dû mourir à la base.
On n'aurait pas dû manger la pomme. Et je crois
en fait,
que ça fait
la, oui, je crois que la mortalité et l'accouchement dans la douleur et voilà. Le travail font partie d'un package un peu comme Orange qui a été donné aux gens à un moment donné, à Adam et Ève, parce qu'ils ont un peu merdé, ils n'ont pas pris le bon abonnement ou je sais pas. On pourrait
non,
peut-être
non,
leur
ils
n'ont
pas pris le bon FAI parce qu'on sait qu'Orange... Oui,
ils ont pris la concurrence.
Ils ont pris un peu.
Donc, alors, on va dire, pour le coup, je trouve justement qu'envisager la mort comme un bug... C'est assez symbolique de ce qu'on appellera le post-humain en technologie. À savoir, on peut améliorer les choses et on peut faire en sorte justement que quelque chose qui était faillible devienne, entre guillemets, infaillible à terme. En tout cas, qu'on tente vers ça. Et à la fois, il y a une partie de moi qui comprend cette approche en disant, bah oui, humainement, pour ce que je disais avant, et surtout que je n'ai pas accouché, donc je continue à être très, très perturbé par cette question de mourir ou pas, il y a une partie de moi qui veut que ça dure, effectivement, dans ce sens-là. Il y a une autre partie de moi, c'est plutôt ce que je développe dans ce que j'écris, qui ne croit pas à ça, qui pense que justement, tant qu'on le verra comme un bug, on va se raidir contre quelque chose, et on en revient à la notion de lâcher prise qui a été évoquée tout à l'heure, et plus on va se raidir, plus ça va faire mal, entre guillemets. C'est qu'à mon avis, il faut se laisser porter par cette espèce de courant qui nous emmène depuis toujours. Toute chose finit par mourir et se transformer et devenir autre chose. Et pour moi, vouloir que ça s'arrête parce que c'est un bug, c'est justement c'est la stase dont on parlait.
Le problème de la raideur, c'est quand même un problème typiquement masculin.
Comment tu sais que j'ai ce problème? Ah merde, mais j'en ai trop dit à un moment donné, non? C'est la conférence de ce soir. Lutter contre les problèmes d'érection, Viagra, pas Viagra.
La SF, comme
ça. Je me suis bien fait allumer, là, je suis un gros mec, là.
Une autre question, s'il vous plaît.
Je suis vraiment désolé.
Merci. Dites-moi, je ne serais pas la vie par hasard, la vie consciente qui serait un bug?
Qui parle? C'est où? Ah oui,
pardon. D'accord.
Dieu.
C'est Dieu.
Oui, j'ai merdé.
Il vient de se réveiller. Alors. Il s'aperçoit.
Oui, c'est ça. Excusez-moi. Vous disiez donc, est-ce que c'est pas.
Je disais, ne serait-ce pas la vie consciente qui est un bug.
Ah peut-être. Effectivement. Alors nous, on va être super contents que ça ait eu lieu ou pas d'ailleurs, parce que ça nous fait faire des conférences chiantes où tout le monde se dit, j'aimerais bien aller bouffer quand même. Alors que je serais un renard, par exemple, je serais allé bouffer sans écouter cette conférence et je serais, ça se trouve, super heureux.
Non, je crois un chat. Choisis plutôt un chat. Ils ont une vie absolument géniale.
J'ai encore dit une connerie sexiste ou quoi? Ah oui, la grosse queue touffue, ça y est. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai, bien sûr, qu'il y a des gens qui imaginent, effectivement... moi, ça me parle aussi, cette vision des choses, de dire on s'enorgueillit de quelque chose qui n'est peut-être qu'une espèce d'aberration ou de surprise étonnante dont on peut faire quelque chose ou non. Mais oui, je suis assez d'accord. Enfin,
plus la conscience que...
La vie consciente.
Oui.
La conscience
en fait,
de
ça
sa
amène,
propre vie. Quoi.
Ça amène en fait le problème du dimanche soir, moi j'appelle ça. C'est-à-dire le fait que quand lundi approche, à partir de dimanche 16h, on commence à se pourrir la vie et le week-end est déjà fichu parce qu'on pense déjà au lundi. Et là, c'est un peu pareil. Quoi. C'est-à-dire que quand les 40 ans approchent, on commence déjà à se pourrir la vie parce qu'on sait que le week-end est bientôt fini.
Attends, c'est à 40 ans que tu places le dimanche après-midi?
Je sais pas.
Oh la vache.
J'ai dit, voilà.
Merci.
Voilà,
non, mais merci.
50 alors.
Je te reparle dans 10 ans, toi.
Oui, mais il y a un remède à ça. C'était Benny Hill qui passait le dimanche soir et qui me permettait de croire en la vie encore à un moment. Et puis le générique sonnait et c'était la fin. Donc je pense qu'au moment de la mort, je vais entendre la petite musique de Benny.
Et là, tu seras content de mourir.
Ah oui, là, je me dis, ouh là là là, ouais. Il était temps que ça s'arrête.
Là, ça devient grave. faut quand même que la dépression soit grave pour être soignée par Benny. Là.
Alors moi j'ai deux pistes en fait pour continuer la discussion. La première c'est sur le thème du vampire en fantastique.
Ah.
Et la deuxième sur un thème. Bon bah on va partir du principe que notre réalité c'est maintenant et ici hein, pour. Parce que c'est bon, on n'est pas dans Ubik, quoi. Enfin, on ne sait pas, remarque, pourquoi pas.
Tant mieux.
Mais pour partir du principe qu'on est dans la réalité, il y a des problèmes qui se posent, notamment dans un point de vue religieux aussi, c'est l'euthanasie. Et donc, votre position là-dessus, en fait, pourrait être intéressant. C'est le rapport justement à la mort et au droit à la mort, en fait. Je sais qu'il y a un auteur, il n'y a pas longtemps, qui a sorti c'est Antoine Lancou qui a sorti quelque chose chez Griffe d'encre, qui s'appelle. Ah, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est intéressant.
Votre mort nous appartient.
Votre mort nous appartient, voilà. Et donc voilà, bon, c'est sur le thème humoristique, j'ai l'impression. Mais...
Je n'ai pas lu le livre d'Antoine, mais bon, c'est un confrère de collection, donc je sais. J'allais dire, c'est toi ou c'est moi qui rigole à propos des positions ? Non, non, c'est pas toi, bon, tant pis. Bon, alors on va la laisser, c'est de tomber, celle-là. Le thème du vampire, t'as commencé au départ. Alors, ce sont mes seuls immortels, moi, dans ce que j'ai écrit. Et j'ai écrit trois histoires avec les vampires. Alors, la première réponse que j'apporte à l'immortalité avec mes vampires, c'est le premier refuse absolument de réfléchir à quoi que ce soit de sérieux, parce qu'il sait que s'il fait ça sur plusieurs millénaires, il va devenir fou. Donc, c'est un joyeux fêtard et il se bourre la gueule en permanence. Ça, c'est mon premier vampire. Mon second vampire... se fait prof d'histoire parce que...
Quelle horreur.
Oui, hein.
Toute une immortalité à enseigner le nazisme aux enfants.
Non, non, la Renaissance seulement parce que c'est Gilles Le Ray et que c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, c'est parce qu'il cherche à combler les trous de sa mémoire qui commencent à apparaître au fil des millénaires. Donc il remplace son histoire par celle de l'humanité. Ça, c'est mon deuxième immortel. Et mon troisième immortel, il essaye de survivre, tout simplement, le plus longtemps possible en gardant le self-respect de base. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur les vampires, l'immortalité. Cela dit, ce sont des prédateurs. Je ne suis pas sûre que c'est... L'immortalité en tant que prédateur, j'y tiens pas tant que ça.
Non, c'est pas parce que je suis un mec que je...
Mais je t'as fini, je... c'est moi qui ai été sexiste, c'est pas toi.
Ah bon, d'accord. Peut-être pour repartir sur aussi l'euthanasie. Bon,
l'euthanasie.
Le vampirisme, j'apprécie la mythologie qu'il y a autour, j'ai jamais écrit dessus, donc j'ai pas une position définie. L'euthanasie... Oui, quand même. L'euthanasie, il se trouve qu'on en a parlé dans les derniers jours d'un immortel, où on a imaginé une société où donc, les gens sont immortels de fait, ils peuvent avoir d'ailleurs autant de corps qu'ils veulent. Ils peuvent se dédoubler par des sortes de clones temporaires. Ils peuvent en fait vivre 1000 vies en une. Mais à un moment, il y a une lassitude. Et à ce moment-là, ils décident de mourir. Donc il y a une euthanasie de fait qui est parfaitement acceptée dans la société en question. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a écrit ça avec Gwen, je ne sais pas si on s'est posé la question de savoir si on était d'accord avec ça ou pas, mais on s'est dit, on va vers ça. Donc je distingue les deux. Hein. C'est-à-dire que ma position est peut-être plus ambiguë là-dessus. Même si je reconnais avoir été très marqué par un reportage sur un Suisse qui mettait fin à ses jours via une organisation, une association en Suisse qui permettait de le faire, ce qui n'est pas possible en France. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, ça dit quelque chose à des gens ou pas du tout? Bon, c'était extrêmement touchant parce que le type avait une tumeur au cerveau. Il savait qu'il allait au bout d'un moment finir d'une certaine manière parce que c'était arrivé dans sa famille. Il ne voulait pas finir comme ça. Il décidait de mettre fin à ses jours et on assistait à un reportage d'une heure, on assistait à un résumé des derniers mois de sa vie. C'était extrêmement fort, extrêmement digne. Moi, ça m'a vraiment troublé. Parce que je vois bien qu'il y a aussi quand même, ça pose quand même un certain nombre de questions morales, hein, le fait de pouvoir choisir le moment de sa mort. Le fait est que là, j'étais assez convaincu par le fait que ça puisse se passer de belle manière. Surtout quand on sait qu'une fin de vie peut aussi être assez horrible. Quand on fait les comparaisons possibles entre certaines sorties ou certaines fins de vie, ça peut être des fois assez atroce. Donc simplement, je distingue bien ma position personnelle, qui peut être un peu floue, un peu ambiguë, et la position d'auteur, où je pense simplement, où nous pensons avec Gwen... que sans doute on irait vers ça, en termes social, qu'on irait vers une euthanasie finalement assez largement acceptée, qui irait dans cette idée d'ailleurs de contrôle des choses. C'est qu'on accepte l'idée que ça nous échappe un peu, mais on décide du moment où ça nous échappe. Une sorte de pirouette en fait, pour dire quand même je garde le contrôle jusqu'à la fin, ou j'ai cette illusion de garder le contrôle jusqu'à la fin.
C'est le problème de Terry Pratchett en ce moment. Terry Pratchett est atteint d'Alzheimer justement, Et personnellement, ça me touche beaucoup parce que, comme je disais, la déperdition des facultés est quelque chose qui me terrorise. Il a demandé au Parlement le droit de mourir. Je ne crois pas qu'il l'ait obtenu. Ma position à moi, là, elle n'est pas du tout érotique. Elle est ferme et définitive. Il faudrait, effectivement, des lois qui autorisent l'euthanasie, qui l'encadrent, comme tu dis. J'ai un problème philosophique, quand même, par rapport à ça. Il faudrait trouver le moyen que ce soit celui qui meurt qui s'inflige la mort lui-même. Parce que refiler ça aux toubibs ou aux infirmières qui ont prêté le serment d'Hippocrate, d'Hippocrite, d'Hippo machin, d'Hippo chose, d'Hippo camp, voilà. Je trouve ça d'une cruauté infinie, mais pour quiconque de toute façon, parce que si on ne le refile pas aux médecins, on le refile à qui ? Aux proches. Donc on vit avec l'idée qu'on a tué son homme, son fils, sa mère. Voilà.
Mais une autre solution ?
Pardon, non, il y avait... Oui.
Une autre solution, ce serait que quelqu'un fasse appel à un membre d'une association de gens qui veulent justement se faire donner la mort, et ainsi de suite.
Ben c'est un peu ce qui arrive en Suisse, hein, où, si j'en crois ce documentaire, je ne connais pas plus que ça cette association, je me demande d'ailleurs même si elle n'a pas été remise en question depuis, mais c'est qu'en fait c'était un mélange, à savoir que l'association gérait toute la partie pratique, et en fait c'était un mélange empoisonné, hein, grosso modo, qui donnait la mort. Mais la personne décidait de la date où ça avait lieu, les gens de l'association étaient là, bon, il y avait sa compagne qui était avec lui, et il décidait du moment où c'est lui qui ingérait le poison. Donc il y avait quand même cette espèce de décision-là, après il s'allongeait et il s'endormait. Quoi. C'était un peu un mélange des deux, mais cette notion de responsabilité de qui donne la mort, elle est assez... même actuellement, elle est assez ambiguë. Il y a un certain nombre de fins de vie assez communément à l'hôpital qui se terminent actuellement avec... en fait, des surdoses de morphine. C'est-à-dire qu'en fait, la position des médecins, c'est de dire, nous, on essaie de faire en sorte que le patient ne souffre pas. Or, on sait aussi qu'au bout d'un moment, le corps ne tolère plus une certaine dose de morphine et donc finit par mourir. Donc finalement, c'est comme si on déléguait la décision à une espèce d'instance qui est la morphine, qui est finalement l'absence de souffrance. Alors, cela dit, moi, je serais ravi quand même qu'on fasse ça, plutôt que de dire, non, mais on va avoir un débat philosophique pendant que je pousse des cris d'agonisant pendant des semaines. Je préfère qu'on tranche. Mais c'est quand même intéressant d'en parler, philosophiquement parlant, de dire c'est comme si on déléguait cette responsabilité à la morphine qui, à un moment donné, va entraîner la mort par paralysie du cœur.
Ou alors on crée une ligue d'assassins voilà, qui serait chargée de nous euthanasier.
On a vu passer un ou deux, là, tout à l'heure, avec des très jolis costumes.
Voilà. Et puis peut-être comme ça permettra à certains de contrôler leur pulsion homicide.
Il faudrait juste que ce soit quand même assez canalisé, qu'il n'y ait pas une erreur à un moment donné. Monsieur Wellman, oui. Il est l'heure. Mais j'ai pas fini.
J'ai pas fini ma conférence.
Ma conférence sur la mort.
J'ai pas mangé.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je sais pas quelle heure il est, mais peut-être que...
Je pense qu'il est temps. En tout état de cause, il ne faudrait jamais que ce soit le médecin qui donne la mort. Jamais.
Bah, surtout que ça leur fait peser une responsabilité monstrueuse, hein, et puis tout le temps. Donc,
Ils ont du mal avec ça, de toute façon.
Oui, bah oui. Mais ils sont mieux formés qu'à une époque, cela dit, quand même. Pour finir sur une vague note positive sur notre fin à tous à l'hôpital avec un long cancer.
Yeah, on va tous mourir.
Il y a quand même une dernière question peut-être.
C'est peut-être pas très positif, mais le coup des assassins ou des associations pour aider à la mort, ça me fait penser à une petite série de Bernard Werber qui s'appelait Exit. Et finalement, ça partait plutôt en cacahuète. Non, mais je veux dire, si on autorisait des lois, tout ça, moi personnellement, j'aurais peut-être un petit peu peur qu'il y ait des abus ou... sans partir dans la conspiration, peut-être des choses pas très très claires qui passeraient par là.
C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de statuer sur ce sujet.
C'est pour ça que c'est tellement mieux de laisser ça à la morphine.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas d'accident là.
C'est ça qui va décider. Morphine pour tout le monde.
Ma petite sister morphine, comme dirait... C'était qui ça ? C'était une chanson de... C'était pas les Stones.
Je ne sais plus.
Là.
Oui, nous dit-on dans la salle. Bon. Est-ce qu'on peut dire bon appétit après un truc comme ça?
Allez donc, soyez votre cancer à table.
Merci à tous et toutes.